Radio Okapi. Okapi. Journal qui vous est présenté par Belinda Bossouma.
À la une, démarrage hier de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. Elle comprend 3 pays étrangers et 9 provinces, dont le Haut-Katanga et le Kasaï oriental, où séjournent respectivement le Premier ministre et le président de la CENI pour l'occasion. 18 personnes blessées par les éclats d'une bombe artisanale placée dans un bassin de farine à moudre. Cela s'est passé hier soir à Beni, dans un moulin au quartier Kalinda. Il s'agirait d'un nouveau mode opératoire des rebelles ADF. Madame, Messieurs, bonjour. Lancement hier pour un mois par la CENI de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle qui comprend 9 provinces et 3 pays étrangers dont l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Les 9 provinces sont le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Kasaï, le Kasaï central, le Kasaï oriental, la Lomami, le Lualaba, le Sankuru et le Tanganyika. Dans le Haut-Katanga, Lubumbashi, le go a été donné par le secrétaire exécutif national de la centrale électorale en présence du Premier ministre dans la capitale du Cuivre. Samalou Kondé a invité tous les Louchois à se faire enrôler car c'est un devoir civique. Jean Gandou, reportage.
Cette cérémonie a eu pour cadre le collège Imara de Lubumbashi qui est parmi les centres d'inscription retenus par la CENI. Le Premier ministre Samalou Kondé a été le premier à se faire enrôler. Après avoir obtenu sa carte, il s'est ainsi exprimé.
C'est fait, j'ai ma carte et je vous demande à tous de faire comme moi, comme il nous l'a été demandé dans notre rôle civique, de nous enrôler. Tout à l'heure, moi, j'ai pu me faire enrôler. C'est une indication aussi en termes d'identification, parce que après, l'ONIP prendra le relais de délivrer la carte d'identité.
Parmi les nombreuses personnes qui voulaient à tout prix à se faire enrôler, se trouve cet homme. Tout heureux d'avoir sa carte en un temps record, il laisse éclater sa joie.
La rapidité, je l'ai constaté, ça n'a pas pris plus de 4 minutes. La qualité est bonne, puisque mes identités se voient, la photo est là. Mes impressions, moi, Kalome Mouaba Gilbert, sont très bonnes. Je suis muni de ma carte d'électeur, c'est parce que je le cherchais à tout prix. Des votes, c'est d'ici là, en 2023. Quand vous me voyez ici me précipiter de se faire enrôler, ce n'est pas pour rien, puisque je dois nécessairement élire une personne de mon choix.
Pour la CENI, les Louchois doivent se mobiliser pour se faire enrôler en masse dans les différents centres qui sont retenus. Pour Toto Mabikou, secrétaire exécutif national de la CENI, les élections auront bel et bien lieu cette année et le glissement n'est pas à l'ordre du jour. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, c'est le secrétaire exécutif provincial intérimaire de la CENI qui a lancé cette opération à l'école primaire 4 janvier. Les premiers acquéreurs de la carte d'électeur n'ont pas hésité de manifester leur joie. Esther Dalafina.
Plus de 75% sur les 121 centres d'identification et d'enrôlement des électeurs prévus pour la ville de Mbujimayi ont ouvert leurs portes depuis ce mercredi matin. Plusieurs requérants sont venus tôt le matin pour se faire enrôler. Éternel Kasongangoy est content d'avoir obtenu sa carte d'électeur.
Je suis arrivé ici vers 10h. Ça s'est bien passé. Le travail s'est passé dans le calme. Il n'y a pas vraiment quelque chose à décrier. Je suis très content d'avoir ma carte.
Même réaction de Thérèse Kamoigna. Je suis contente d'avoir la carte. Je suis arrivée ici à 6 heures. Je suis restée jusqu'au moment où on a ouvert la porte. Je suis contente d'avoir la carte. Au cours de la cérémonie de lancement de cette opération, Anaclet Mbouyi, CEP AI de la CENI, a demandé à la population de se faire enrôler massivement au centre le plus proche.
Nous adressons à la population de venir massivement se faire enrôler dans nos centres d'inscription qui sont éparpillés à travers toutes les 5 communes de la ville de Mbujimayi. Et ça s'ouvre de 7h à 16h30.
Signalons que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle prend au total un mois. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Restons au Kasaï oriental pour signaler l'arrivée mercredi à Mbujimayi du président de la commission électorale. Denis Kadima est allé encadrer le lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette province. Après la rencontre avec le gouverneur et les membres du conseil provincial des opérations, le président de la CENI est allé visiter quelques centres d'inscription ouverts dans la ville de Mbujimayi. Denis Kadima, au micro de Esther Dalafina.
Le but de ma mission, c'est de venir encadrer le lancement de l'enrôlement des électeurs dans l'aire opérationnelle 2 qui comporte aussi le Kasaï oriental. Je viens en fait d'arriver du Kasaï central, puis je vais continuer dans le reste de l'aire opérationnelle 2. En fait, le but est d'accompagner les autorités provinciales ainsi que les parties prenantes au processus électoral ici au Kasaï oriental, pour que ensemble nous travaillons pour un enrôlement de grande envergure de la population de cette entité, évidemment pour tous ceux-là qui remplissent les conditions requises. Maintenant, je sors déjà d'une réunion avec le Conseil provincial des opérations pour m'enquérir sur la situation sécuritaire. Bon, d'ici, nous allons visiter quelques centres d'inscription pour voir comment ça se déroule. Évidemment, il y aura des réunions en interne, des réunions avec les parties prenantes, mais cela sera évalué au fur et à mesure durant mon séjour.
Entre-temps, le mouvement citoyen Vigilance citoyenne électorale exige des élections crédibles, transparentes, inclusives et dans le délai constitutionnel. C'est ce qu'a déclaré mardi à Kinshasa le coordonnateur national de cette plateforme lors du lancement officiel de la campagne de sensibilisation contre le glissement sur base de l'article 64 de la Constitution. Selon maître Hervé Diakiesé, le processus d'enrôlement des électeurs est très mal engagé et avec lui le reste du processus électoral. Le coordonnateur national du mouvement Vigilance citoyenne électorale, dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
C'est la mobilisation citoyenne en tant que peuple souverain de s'assurer que l'activité électorale obéisse aux standards de transparence, de démocratie, d'inclusivité. Nous passons aussi par la sensibilisation parce que c'est tout le peuple congolais qui a intérêt à avoir des élections crédibles. De toute façon, tout électeur qui se déplace ces jours-là est déjà activement membre de la vigilance citoyenne parce que c'est un citoyen et nous lui apprendrons à rester dans les centres de vote jusqu'au dernier dépouillement et exiger l'affichage des résultats des votes. Nous voulons des élections de qualité, nous y avons droit. Et nous ne voulons pas des glissements. Mais les élections doivent respecter les standards. La CENI vient déjà d'assurer le glissement de son propre calendrier électoral pour l'enrôlement. Elle vient de prolonger les élections. Mais son président avait dit qu'il naviguait à vue parce qu'il n'avait pas fait des phases pilotes. Mais nous ne voulons pas que cette navigation à vue persiste. Et si on se rend bien compte que la CENI n'est pas en mesure ni en capacité de répondre aux exigences d'organisation des élections dans les standards internationaux, il faudrait envisager clairement à les remplacer tous.
Rendons-nous à Beni, je vous l'ai dit dans le titre. 18 personnes, dont 13 femmes, ont été blessées par les éclats d'une bombe qui a explosé hier soir dans un moulin au marché de la cellule Ma Campagne dans le quartier Kalinda. Les victimes sont prises en charge dans les centres de santé Virunga, Prospérité et à l'hôpital général de Beni. Les éléments de la police ainsi que des experts du service de lutte anti-mine de la MONUSCO UNMAS sont descendus sur le lieu afin d'identifier la nature de cet engin mortel. Marc Maro Fimbo était sur place. Reportage.
C'était aux environs de 18h45 quand cet engin mortel piégé dans un bassin de farine à moudre a explosé, faisant 18 victimes, dont 3 graves. Dasses Katembo, chef du quartier Kalinda, explique. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec un sachet dans lequel il y avait une bombe dans un bassin. Après l'avoir donné à quelqu'un, la bombe a explosé au lieu même où il y a un moulin à farine au marché. Il y a des dégâts car des gens sont blessés. Après vérification, nous voyons que c'est une bombe. Au vu de la gravité de la situation et compte tenu que la région est sous menace de ces nouveaux modes opératoires des rebelles du GDF, le président de la société civile de la commune de Moulekera appelle la population à la vigilance. Joseph Sabouni Kakule. Nous devons nous appuyer sur notre concept de la surveillance de l'un à l'autre. Quand nous allons nous surveiller avec toute vigilance, cela va nous permettre de savoir qui est l'ennemi, il vient d'où et quand. Cela nous aidera à identifier tous les malfrats dans notre communauté. Les experts du service de la lutte antimine de la MONUSCO, qui sont vite descendus sur le lieu du tram, ont certifié la nature de cet engin mortel qui est une bombe artisanale avec une forte composition d'explosifs de diverses catégories. Les éléments de la police et des FARDC qui les ont accompagnés ont quadrillé la zone décidant afin d'éviter tout accès à la population. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Par ailleurs, les affrontements repris hier matin sur les deux lignes de front en territoire de Massissi et Rutshuru dans le nord Kivu, ils opposent les rebelles du M23 aux FARDC et Mai Mai. La situation est restée tendue et plusieurs sources signalaient la suspension du trafic sur l'axe Massissi-Kichanga depuis le matin d'hier mercredi. Les rebelles du M23 seraient à Rugarama, 2 kilomètres de Kichanga, une grande agglomération de Massissi, mais aussi à Rushebeche, 14 kilomètres sur la route Masisi Kichanga. Du côté de Bwito, les autorités locales ont affirmé que les rebelles occupaient depuis hier matin l'entité de Bambo, alors que mardi, ces derniers étaient déjà repoussés par les FARDC et les Mai Mai. Retour sur la situation d'hier avec vous, Alain Rungmushinj.
D'après le chef de groupement de Bachali Mukoto, les rebelles ont été repoussés de la route qu'ils ont coupée et occupée à Buragama pendant quelques heures. Cette autorité coutumière affirme que les FARDC et la force d'autodéfense maintiennent leur position et auraient mis en arrestation certains infiltrés et assaillants. Un calme relatif s'observe dans la cité et la population a trouvé refuge dans la base des casques bleus à Kichanga. En revanche, nous n'avons pas de précision sur l'évolution de la situation vers le sud côté Burungu et Rouché. Selon certains témoignages, le trafic n'a pas encore repris sur l'axe Goma-Masisi-Kichanga. Des véhicules de transport des voyageurs et marchandises seraient bloqués au milieu de la zone des affrontements, alors que d'autres camions ont rebroussé chemin le matin. Par ailleurs, sur l'axe Kishishe-Bambo, en chefferie de Bwito, les combats seraient toujours en cours d'après les sources concordantes. Difficile de dire qui contrôle Kishishe ce mercredi, mais la localité de Bambo est entre les mains des rebelles, affirment toutes les sources. Ces rebelles du M23 auraient également reçu des renforts dans cette partie de Rutshuru, affirment les mêmes sources. Juin hier, le porte-parole avait accusé les rebelles du M23 de violer le cessez-le-feu et tous les processus de paix. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko a réaffirmé que l'armée va sécuriser la population et le territoire congolais.
Dans l'actualité aussi, une équipe des experts internationaux évalue depuis mercredi dans un atelier à Kinshasa le niveau d'exécution des recommandations formulées par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU envers la RDC depuis 5 ans. Selon le président de cette équipe, il y a eu beaucoup d'avancées certes, mais beaucoup reste encore à faire par le gouvernement congolais, notamment en matière des poursuites judiciaires. Jeff Ngoy revient sur ces recommandations.
Dans le domaine de la lutte contre l'impunité, il faut noter le renforcement de la capacité des auditeurs militaires du Kasaï afin qu'ils puissent enquêter, poursuivre et juger des auteurs, y compris les plus hauts responsables des nombreux crimes internationaux commis au Kasaï depuis 2016. Cela en augmentant les ressources humaines et logistiques des auditorats militaires, en s'assurant que les personnes reconnues coupables de crimes et de violences sexuelles soient condamnées à des peines appropriées et que ne soient pas intégrées ou maintenues dans les forces de défense et de sécurité. Concernant le domaine de la justice transitionnelle, il était recommandé de s'engager dans un processus inclusif de justice transitionnelle visant à établir la vérité et à apporter la réparation aux victimes afin d'assurer la réconciliation, mettre en place un mécanisme de justice de transition inclusif et approprié. D'autres recommandations visent notamment à s'assurer que le processus de désarmement en cours s'applique à toutes les milices sans distinction et s'inscrit dans la dynamique de la réconciliation et du retour effectif des miliciens dans leurs communautés respectives.
Merci de nous recevoir à Bassankoussou et à Mbandaka. Nous sommes dans la province de l'Équateur. Des deuils s'organisent depuis le naufrage le 18 janvier d'un convoi motorisé à Likwelo. Les familles des victimes continuent à déplorer la disparition des leurs. Le cas de l'église Eli qui a perdu son coordonnateur provincial adjoint ainsi que 3 fidèles qui résidaient à Bassankoussou. Parmi les victimes, il y a eu aussi beaucoup, plusieurs étudiants de Mbandaka, indique un habitant, car certains politiciens les auraient dépêchés à Bassankoussou pour l'enrôlement afin de voter en leur faveur lors des prochaines élections. Le coordonnateur provincial de l'église Eli Équateur, Dr Samuel Mbonza, a témoigné au micro de Paul-Richard Balinguela.
Oui, je confirme parce que il y a même une équipe de l'église qui a été dépêchée à partir de Bassankoussou avec un orbo. Ils sont arrivés à l'endroit et ils ont cherché. Et ce n'est que le vendredi de la semaine qui vient de se passer qu'on avait retrouvé le corps, mais en état de décomposition. Il a été enterré sur place au village Likwelo. Dans ce convoi, il y a eu 4 serviteurs de Dieu, notamment le secrétaire général de l'église Eli, avec une délégation de la coordination provinciale. Quand l'accident a eu lieu, il y a eu disparition du pasteur Christian Mbangoulou Mitwa. D'ailleurs, le deuil s'est passé ici. C'est le dimanche qu'on a organisé un culte d'action de grâce pour l'âme du pasteur disparu. Selon les témoignages du sous-coordonnateur de Bassankoussou, il y a eu vraiment plusieurs disparus. En dehors de notre pasteur, une maman brebis de notre église là, qui est voisine au sous-coordonnateur à Bassankoussou, qui a perdu même 3 de ses fils qui étaient à bord de ce convoi.
Et nous apprenons que la mission multisectorielle dépêchée par les autorités provinciales à Likwelo est de retour à Mbandaka depuis lundi soir. Jusque-là, la délégation poursuit la compilation des éléments avant l'annonce du rapport officiel de la mission.
Actualité internationale.
Nous sommes en Afrique du Sud. Une vague de chaleur étouffante qui a balayé certaines parties du pays ces dernières semaines a fait au moins 8 morts en plusieurs jours, a annoncé mardi le gouvernement. Ces morts étaient pour la plupart des ouvriers agricoles de la province peu peuplée et en grande partie semi-aride du Cap Nord qui borde la Namibie et le Botswana au nord-ouest du pays, selon le ministère du Travail. Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.